Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com. Aube, épisode 1.
Dans ce premier épisode, on parle de vous.
Oui, toi, qui nous écoutes, qui a l'impression d'être seul à penser différemment.
Au sommaire, on vous parle des créatifs culturels,
des systèmes d'échange locaux,
de la communauté Bread and Puppet au Vermont.
Tandis que Guillaume nous parle des nouvelles du front.
Un petit radiothéâtre avec discussion dans un commerce.
Ainsi que notre toute première chronique Utopie et l'apostrophe de Monsieur Tubercille de Jean-Baptiste Gardaret.
Aube te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives. De prendre action simplement par une prise de conscience.
Le mot-clé?
Ensemble. Quel extraordinaire outil que la parole, qui me permet de prendre ce que j'ai dans ma tête puis de vous le partager. D'aussi longtemps que je me souvienne, j'ai cherché à parler aux autres. Je voulais connecter avec d'autres humains. Je voulais qu'on soit ensemble. C'est d'autant plus vrai aujourd'hui, il y a une idée dans ma tête qui ne me quitte pas, un sentiment profond, une intuition qui m'habite. Faut qu'on tisse des liens. Faut qu'on se rassemble. Je connais pas d'autres outils que la parole pour tisser des liens. Faut qu'on se parle. Mais qui a encore le goût d'écouter aujourd'hui, t'sais? Personnellement, moi, je suis bombardé au quotidien par plein de gens qui veulent mon attention. Je suis harcelé par des publicités qui veulent me parler de leur nouvelle voiture plus, de leur ultra méga solde sur leur machin qu'il faut que j'achète. Des publicités partout. Dans la rue, dans le métro, à la télé, à la radio, dans les magazines. Je reçois des appels, tu sais. Oui, Monsieur Guillaume, est-ce que c'est le bon moment de vous déranger? C'est pour un sondage, pour savoir quelle publicité vous aimeriez voir quand vous pissez dans les toilettes. Pour me défendre, je fais comme tout le monde, t'sais, je regarde mon téléphone. Mais au fond, c'est la même chose, t'sais, des newsletters, des notifications Facebook, des alertes sur Twitter, des tonnes de sites web, de blogs qui veulent mon attention, ils veulent mon clic. Il y a tellement de bruit autour de moi. Je veux pas rajouter du bruit. Mais faut qu'on se parle. J'ai le goût de vous parler. C'est un dilemme parce que votre attention, elle est précieuse. Le temps que vous mettez à m'écouter, bien, c'est du temps que vous pourriez prendre pour méditer ou aller prendre une marche dans le parc puis écouter les oiseaux. C'est du temps pour baiser, c'est du temps pour boire puis fumer avec des amis, c'est du temps pour sortir danser. Puis qu'est-ce que je pourrais bien vouloir vous dire anyway, tu sais, qu'est-ce qui va être plus pertinent que l'analyse de Noam Chomsky? Qu'est-ce qui va être plus doux dans vos oreilles que une chanson de Nina Simone? Qu'est-ce qui va être plus touchant que la poésie de Gaston Miron? J'ai juste tellement l'impression qu'il faut qu'on se parle, qu'il faut qu'on se rassemble pour qu'on arrête d'être seul. J'ai tellement l'impression d'être seul des fois. Seul à espérer que le monde peut changer. Seul à souhaiter que ma culture, mon environnement, ma communauté soient protégées. Seul à vouloir plus de solidarité, de justice ou de démocratie, seul à vouloir plus d'art, plus de beauté. On se sent impuissant quand on est seul. C'est pour ça que je veux qu'on se rassemble. C'est pour ça que je veux qu'on se parle. C'est pour qu'on recommence à rêver un meilleur monde. Ensemble.
Après une vaste étude menée entre 86 et 99 auprès de plus de 100 000 personnes, le sociologue Paul Ray et la psychologue Sherry Anderson affirment dans l'émergence des créatifs culturels qu'un quart environ des citoyens états-uniens vivraient d'ores et déjà dans un système de valeurs et de comportements complètement nouveaux. ouvert à l'écologie, à la solidarité, aux valeurs féminines et à l'éveil intérieur. Catégoriquement nié par les politiques et les médias, ce mouvement marquerait le début d'une renaissance aussi importante que celle qui lança le modernisme il y a 500 ans. Valeur numéro 1, vivre sa vie comme un engagement responsable et cohérent vis-à-vis de soi-même, des autres et de la biosphère. Obstacle numéro 1, interroger sur le nombre de gens qui, à leur avis, partagent leurs valeurs et leurs comportements, l'énorme majorité des créatifs culturels se sous-estiment dramatiquement. Ils se croient en moyenne 5% de la population alors qu'ils seraient 24%, selon les sondages cités par l'enquête. Mais qui sont-elles? 60% sont des femmes et la part des 18-24 ans augmente chaque année. Preuve pour les animateurs de l'enquête qu'il s'agit d'un nouveau courant fondamental. Sociologiquement, on trouve les créatifs culturels dans toutes les couches et tous les âges de la population, même s'ils sont incontestablement un peu plus cultivés, riches et urbains que la moyenne. Démographiquement, ils se répartissent en deux populations d'environ 23 millions d'adultes chacun. Un noyau central dit « avancé », préoccupé à la fois de justice sociale, d'engagement écologique et de développement psycho-spirituel, et une périphérie dite « écologiste » qui aurait tendance à ne faire que lentement et avec prudence le lien entre l'engagement social et la vie intérieure, ou entre l'écologie et une nouvelle forme de spiritualité. Traditionnellement, ils estiment que l'évolution ne s'est jamais effectuée en faisant table rase du passé, mais en intégrant intelligence combinée des stades précédents. L'idée de métissage culturel à travers l'espace et le temps nous reliant aux autres sociétés humaines, notamment aux cultures primordiales, vivant encore en symbiose forte avec la nature, leur est particulièrement chère. Les créatifs culturels sont des gens qui tentent de mettre en application quatre types de valeurs. En premier lieu, l'implication personnelle dans la société par des engagements solidaires, locaux et globaux, immédiats et à long terme. En deuxième lieu, on parle surtout d'une vision féminine des relations et des choses. En troisième lieu, l'intégration d'écologie, de l'alimentation bio, des méthodes naturelles de santé, des médecines alternatives. Et en quatrième lieu, importance du développement personnel, de l'introspection et des nouvelles spiritualités. Psychologiquement, les créatifs culturels ont un point commun important. Ils ne supportent plus d'être divisés, coupés, en contradiction avec eux-mêmes. Leurs mots-clés sont notamment cohérence, congruence, interaction et synergie. Que l'on puisse prôner le respect des équilibres écologiques et ne pas en tenir compte dans sa propre vie quotidienne leur est devenu insupportable. De même, croire sincèrement que seuls des comportements plus solidaires pourraient sortir l'humanité de la catastrophe et ne pas s'engager soi-même dans ce sens les horripile. Quant à prêcher l'éveil d'une vie intérieure essentielle et baratiner sur la spiritualité tout en continuant à se comporter au travail, dans la cité, chez soi, comme les générations précédentes, cela leur paraît grotesque. Dire ce que l'on fait, faire ce que l'on dit, telle est leur devise, et l'enquête de Ray et Anderson montre en particulier dans son suivi à long terme qu'il ne s'agit pas là de vains mots. Comme si les idéaux des années 60 et 70 avaient fait un long chemin souterrain pour atteindre aujourd'hui non pas quelques dizaines de milliers de personnes, de marginaux, mais plutôt des millions de citoyens intégrés. Pourtant, s'il a fallu 20 ans pour que les mouvements contre la guerre deviennent enfin des mouvements pour la paix ou les mouvements anti-mec des mouvements pour les relations hommes-femmes harmonieuses, c'est que le catalyseur de ces métamorphoses est très souvent venu de la spiritualité et de la psychologie humaniste, dont l'intégration ne peut se faire que lentement. Quand on met côte à côte la popularité croissante d'un mouvement et la lenteur de son cycle d'apprentissage, il est facile de s'arrêter uniquement aux excès de la vulgarisation, la spiritualité syncrétique et la psychologie de comptoir dont certains médias adorent se gausser. Mais confondre ainsi la surface du mouvement et sa substance profonde est une erreur. Si l'on veut vraiment comprendre ce qui se passe, il est nécessaire de bien faire la différence entre la masse croissante de ceux qui sont à la recherche de nouvelles sensations, d'un parfum nouveau pour leur vie ou de quelque chose d'authentique d'une part et d'autre part les adeptes de longue date qui ont appris petit à petit à vivre une vie authentique, à profondément transformer leur existence en fonction de ce qu'ils ont appris. Les deux ensembles ont grandi durant ces 40 dernières années, mais ce sont surtout les débutants qui sont les plus visibles avec leur population en perpétuelle croissance. 24% des citoyens états-uniens ne fonctionneraient plus désormais selon le modèle de l'American Way of Life. Cette nouvelle considérable mériterait au minimum qu'on l'examine, qu'on la vérifie et surtout qu'on la critique. Elle est passée ici inaperçue, corroborant l'une des informations de fond que cette enquête apporte, imbibée de la conviction que le modernisme est la normalité, les médias et les politiciens n'ont rien capté du phénomène. C'est ce qui arrive quand on passe un type de culture résolument nouveau. L'ancienne culture dominante non seulement ne comprend pas, mais ne voit rien. Particulièrement surprenante est l'extrême lucidité des créatifs culturels vis-à-vis des médias, des leurres de la pub et de la société de consommation et des manipulations des grands groupes économiques. Et maintenant? Trois possibilités. Le modernisme continue à mondialiser ses visions sans rencontrer d'alternatives innovantes, fortes, et le monde plongera dans une confrontation chaotique. Deuxième possibilité, les créatifs culturels parviennent à s'ériger, sinon en force politique, du moins en interlocuteurs institutionnels de poids, à la manière de ce que firent jadis les syndicats, et tous les espoirs sont permis de voir émerger une civilisation nouvelle, aussi différente du modernisme que celui-ci le fut du Moyen-Âge. Troisième possibilité, les créatifs culturels demeurent dans l'ombre, mais réussissent à féconder suffisamment d'instances culturelles, économiques, politiques et sociales pour qu'une part de leurs valeurs et visions soit reconnue, et on entre alors dans une phase de transition plus lente. Le fait que beaucoup de nouvelles valeurs et attitudes, notamment contre le racisme, ou pour le respect des femmes, ou encore en faveur de l'environnement, ont peu à peu fini par atteindre la société entière en seulement une génération. Ray et Anderson imaginent toutes sortes de concrétisations possibles de l'univers créatif culturel, des écoles, des universités, ou encore des centres ouverts aux gamins de rue, des réseaux connectés à la planète entière. Une nouvelle grande utopie en train de naître? Qui sait? À lire: L'émergence des créatifs culturels de Ray et Anderson aux éditions Yves Michel, et vous pouvez consulter aussi le site culturalcreative.org.
Un groupe, un rassemblement, une foule,
une masse, une addition,
un duo,
un trio,
un orchestre,
à l'unisson, en cadence, en chœur, simultanément, aussi collectivement, coude à coude, de concert.
Pas à tour de rôle ou individuellement,
ensemble. Excusez-moi, monsieur Fruitier. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'emballer chaque raisin dans un plastique individuel?
Je te dirais, ça doit être pour comme Santé Canada là, qui nous oblige à tout emballer. Là.
Quoi? Santé Canada? Je n'ai jamais entendu parler de cette façon de faire. Je trouve ça un peu étrange, un peu comme pratique.
Ouais, mais c'est peut-être aussi juste parce que ça garde les choses plus frais, plus longtemps.
Ouais, c'est ça. Je peux comprendre que vous ayez des pertes. T'sais, genre, il y a des fruiteries à chaque coin de rue dans le quartier, mais je pense qu'il y a comme une sorte de limite. Là. Chaque plastique, chaque raisin. Pourquoi est-ce que je devrais aussi acheter 3 poivrons emballés dans un petit cellophane, lui-même emballé dans un plus grand cellophane? Est-ce que, bon, je vis seul personnellement, est-ce qu'un seul poivron, c'est largement suffisant pour ma semaine? Pourquoi est-ce que chaque piment individuel se vend 10,99 le livre, tandis que 3 piments spéciaux se vendent 3 pour 3 piastres? Je tente de comprendre votre logique, mais j'ai un petit peu discuté. Faut que je vous avoue, là, que...
Le piment individuel, il est... spécial. C'est un piment qui provient de la Belgique.
Yeah, right. Comment? Un piment de la Belgique. Sincèrement, écoute, j'ai fait dernièrement l'autopsie de ma poubelle, puis votre plastique et styrofoam font partie un peu des derniers vestiges de mes résidus, donc sincèrement, je commence un peu à songer à fréquenter l'autre petite fruiterie un peu plus loin, là.
Ouais, mais tu sais, vous savez, on peut sûrement essayer de trouver de s'arranger.
Genre,
à la caisse, je pourrais reprendre les styrofoams des clients.
OK. Intéressant. C'est un bon début. Puis, qu'est-ce qu'on fait avec le suremballage?
J'ai vu que mon fournisseur offrait de la pellicule compostable.
Bon, tu vois, c'est déjà quand même un bon début. J'imagine que vous allez aussi redonner vos invendus à un organisme de bienfaisance du quartier.
Oui, pourquoi pas?
Écoutez, la prochaine fois que je vous verrai, je vous apporterai un ou deux téléphones des organismes en question. Justement, ça tombe bien. Hein? J'ai fait une petite recherche dernièrement.
Au Québec, 13 millions de tonnes de déchets sont produites chaque année, soit un camion de 25 tonnes à la minute. La moitié de nos matières résiduelles se retrouvent dans les sites d'enfouissement, alors que nous pouvons réduire à la source notre production de déchets et réutiliser nos rebuts comme ressources. 93% de nos matières résiduelles peuvent être valorisées par le recyclage et le compostage.
Temps requis pour changer les choses auprès de mon fruitier. 2 minutes, 30 secondes.
Le mot « utopie » a été inventé en 1516 par l'anglais Thomas More, du grec « u », préfixe négatif, et « topos », endroit. « Utopie » signifie donc « qui ne se trouve en aucun endroit ». Pour certains, le mot proviendrait du préfixe « eu » signifiant « bon » et dans ce cas, « utopie » voudrait dire « le bon endroit ». Thomas More était un diplomate, un humaniste ami d'Erasme doté du titre de chancelier du Royaume d'Angleterre. Dans son livre intitulé « Utopia », il décrit une île merveilleuse qu'il nomme précisément « Utopia » et où s'épanouit une société idyllique qui ignore l'impôt, la misère et le vol. Il pensait que la première qualité d'une société dite « utopique » était d'être une société de liberté. Il décrit ainsi son monde idéal, 100 000 personnes vivant sur une île avec des citoyens regroupés par famille. 50 familles constituent un groupe qui élit son chef, le Sifogrante. Les Sifograntes sont eux-mêmes constitués en conseil, lequel élit un prince à partir d'une liste de 4 candidats. Le prince est élu à vie, mais s'il devient tyrannique, on peut le démettre. Pour ces guerres, l'île d'Utopia emploie des mercenaires, les Apolettes. Ces soldats sont censés se faire massacrer avec leurs ennemis pendant la bataille. Ainsi, l'outil se détruit durant l'usage. Aucun risque de putsch militaire. Sur Utopia, il n'y a pas de monnaie. Chacun se sert au marché en fonction de ses besoins, toutes les maisons sont identiques. Il n'y a pas de serrure aux portes et chacun est contraint de déménager tous les 10 ans afin de ne pas se figer dans ses habitudes. L'oisiveté est interdite. Pas de femmes au foyer, pas de prêtres, pas de nobles, pas de valets, ni de mendiants. Ce qui permet de réduire la journée de travail à 6 heures. Tout le monde est tenu d'accomplir un service agricole de 2 ans pour approvisionner le marché gratuit. En cas d'adultère ou de tentative d'évasion de l'île, le citoyen d'Utopia perd sa qualité d'homme libre et devient esclave. Il doit alors trimer et obéir à ses anciens concitoyens. Disgracié en 1532 parce qu'il désavouait le divorce du roi Henri VIII, Thomas More fut décapité en 1535.
Un texte de Bernard Werber tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu. bernardwerber.com.
Salut Philippe, ça va bien?
Salut Guillaume, ça va très bien toi?
Ben, ça va très bien, merci.
Excellent.
Pour le bénéfice de nos auditeurs, je te demanderais juste de te présenter.
Philippe Laramé, je suis éditeur de Aube. J'ai lancé une revue en 2002 à peu près pour, dans le fond, proposer des solutions écologiques, développement durable, social, communautaire. Moi, j'ai drivé cette revue-là quand même pendant une dizaine d'années. Puis là, présentement, ben, c'est ça, l'idée de faire un podcast, là, ça m'animait.
Moi, c'est Guillaume Lam. Je suis originaire de la ville de Québec. J'ai fait mon bac en économie internationale et développement à l'Université de l'Ottawa. Puis ensuite, je me suis expatrié 4 mois en Afrique. À toucher à toutes ces choses-là, je pense que j'ai été tout de suite attiré par l'idée d'essayer de changer les choses. Puis l'idée un peu derrière le projet de l'émission de radio, c'est ça aussi, hein, c'est d'essayer de rassembler les gens autour de cette idée-là que le monde peut changer, le monde peut être meilleur, entre guillemets. Mm-hmm. On en a parlé longtemps, toi et moi, hein, de cette idée-là, tu sais, la démarche dans laquelle on avait envie de s'intégrer.
Ouais.
Comment tu résumerais ça?
C'est, je pense, de présenter d'autres réalités. Je pense que ce serait un peu... Qu'est-ce que d'autres angles de traitement aussi de notre réalité? Parce que des fois, on n'a pas l'impression qu'on peut changer des choses. Il y a des gens qui font des trucs, puis on le sait pas. T'sais, parce que c'est pas ça qui fait la une, c'est pas ça qui fait les grands titres. L'idée, je pense, de cette émission-là, c'est une des grandes idées, je pense, c'est de présenter ces initiatives-là qu'on connaît pas, qui sont peut-être au coin de la rue.
T'sais. Exactement, ceux qui posent des actes tout simples, des super belles initiatives. Mm. Je pense qu'il y a d'autres valeurs aussi qui peuvent être véhiculées. Il y a des gens qui peuvent choisir différentes spiritualités, différentes approches à la vie. La norme, là, on peut la faire éclater dans tous les sens, on peut la remettre en question pour essayer d'en définir une qui reflète mieux ce qu'on veut pour l'humanité au 21e siècle, qui reflète mieux ce qu'on veut aussi pour notre planète, pour comment on veut avancer en respect de l'écologie, évidemment, mais aussi de certaines valeurs humaines, puis de reconnaître le potentiel créatif et créateur de l'humain.
Dans une forme de laboratoire aussi, on teste des trucs, on arrive présentement, je crois qu'on a plafonné à plusieurs aspects. Il y a plusieurs trucs, on arrive dans des cul-de-sac en termes de société, puis en ce moment, justement, avec l'idée d'aller voir, d'aller regarder, d'aller ouvrir des bois, des petits sacs, de dire, regardez, il y a ça qui existe, il y a tel endroit, ils font telle chose, on a rencontré telle personne, puis ils mettent de l'avant tel autre truc. Juste avec Aube comme produit, 400 articles, maintenant, sont disponibles sur le site web, laplumedefeu.com. Juste à partir de là, c'est chacun des articles qui a été écrit, c'est une centaine de collaborateurs qui ont participé durant une dizaine d'années. Dans le fond, les gens arrivaient avec des articles, que ce soit d'autoconstruction, d'énergie renouvelable, que ce soit d'éducation alternative ou d'économie solidaire. On avait plein on a rassemblé beaucoup de solutions que je regarde aujourd'hui, par exemple, 10 ans plus tard. Je me dis, OK, il y a sûrement d'autres trucs qui existent. On n'a sûrement pas fait le tour de la question. On est rendu en 2015, l'horloge a avancé. On tombe maintenant dans d'autres problématiques en termes de société, en termes d'univers, en termes de planète présentement. Je regarde ça avec un peu de recul aussi.
C'est vrai que ça en est passé beaucoup des choses entre 2002 puis 2015. Ça a nourri beaucoup ma réflexion. Mm-hmm. Mon parcours entre 2002 puis 2015, c'est partir de Québec, quitter une ville qui a tout plein de belles qualités, mais où on n'est pas beaucoup confronté à la diversité des opinions, des façons de faire. Et en arrivant à Ottawa, j'étais loin de ma famille, de mes amis. Il fallait que j'aille percer d'autres milieux. Puis les gens sur qui je suis tombé, c'était des gens qui étaient eux aussi dans cette démarche-là de remise en question. Évidemment, j'étudiais en développement international. On avait des visions critiques, si on veut, des modèles de développement économique.
Puis j'imagine que quand t'es arrivé en Afrique, ça a dû être le choc, là, rendu là.
Mais complètement, parce que on arrive avec une perspective très occidentale de l'Afrique, là. Tu mets les pieds là-bas, puis t'as cette idée-là que tu comprends comment ça fonctionne en Afrique, alors que ça a duré 4 mois, et le plus grand constat que je peux faire de ça, c'est que si j'arrive avec mes idées de comment la vie doit fonctionner, je ne comprendrai pas ce qui se passe sur place. Il faut que je m'intéresse à cette nouvelle façon-là, qui n'est pas nouvelle parce qu'eux l'ont inventée récemment, là, qui est nouvelle pour moi. Mm-hmm. C'était super intéressant parce que ça te permet de remettre en question certaines choses que toi, tu fais par défaut. Tu réfléchis à ta liberté de prendre certains choix, d'en enlever d'autres. Aussi sur place, tu sais, de rencontrer des gens qui ont des projets, qui ont... Quand je suis revenu ici, je me suis mis à essayer de réfléchir à ce serait quoi, moi, mes projets. J'ai fait de la radio à l'université quand je faisais ma maîtrise à Sherbrooke. Je me suis impliqué dans un groupe d'action politique. On a formé un groupe d'action politique avec les gens à la maîtrise avec qui j'étudiais. On avait envie de participer. Puis je pense que cette envie-là, elle est globale. Je l'observe autour de moi. Je réalise que de plus en plus, je côtoie des gens qui sont dans l'action, qui ont envie d'améliorer les choses. C'est un peu ça aussi l'idée de l'émission de radio, tu sais, de se lancer dans un projet où on va essayer de mettre notre pierre à l'édifice, de changer un petit peu les perspectives, de mettre un éclairage différent sur ce qui se passe autour de nous.
Puis, concrètement, c'est quoi tes, quelles sont tes espérances, là, justement, pour, avec l'émission qu'on tente de mettre de l'avant?
Ben, je pense que ma plus grande espérance, d'abord, c'est d'être capable, moi, de créer quelque chose qui est beau. J'ai envie d'y mettre de l'effort, de l'énergie pour avoir une création, une œuvre d'art qui m'appartient. C'est un sentiment d'autoréalisation. J'ai une espérance de m'autoréaliser un petit peu à travers ça. Mais évidemment, si c'est réussi puis que c'est de la bonne radio, ça va être parce que ça va avoir rassemblé des gens autour d'un poste d'écoute. Ces gens-là ont des choses à se dire, des choses à se parler. Je pense qu'on peut s'entre-inspirer de plein de démarches. J'ai envie de réussir à rassembler ces gens-là autour d'une heure de radio une fois par semaine où ils peuvent sentir que globalement, là, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans une direction relativement commune. Tu sais, on a choisi d'appeler l'émission Aube, comme ta revue, parce qu'on se disait, c'est le moment juste après la nuit, au moment où les choses changent. Dans le fond, l'aube, on est à une période présentement où on arrive à l'aube de quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. T'sais, c'est cette idée-là que nous, on veut avoir rapporté ce qui se passait au moment où l'aube se levait.
Exactement.
Pour que dans 20, 30 ans d'ici, les gens voient qu'il y a du travail qui a été fait en amont, on a bûché vraiment dur, puis que dans 100 ans d'ici, les gens puissent dire « Ah, OK, à cette période-là, en effet, là, il y a eu une ébullition, il y a eu plein d'humains qui voulaient vivre dans un monde différent, puis qui sont mis à réfléchir à des solutions, à essayer d'en mettre en pratique. »
Même chose aujourd'hui, oui, on peut regarder pour les trouver des remèdes technologiques pour des problèmes technologiques, mais sauf que peut-être que finalement on peut juste se calmer puis juste regarder autour de nous puis dire ok, il y a des trucs qui existent beaucoup plus simples.
C'est aussi ça, c'est de regarder dans le passé aussi qu'est-ce qui s'est fait, de se réinspirer de façon de faire différente. C'est ça qu'on va essayer de faire au travers de l'émission. En fait, ce qu'on veut faire, c'est s'inspirer de visions du monde les plus différentes possibles pour voir un peu où on s'en va. En guise d'ouverture là, sur ce qui s'en vient, j'avais envie de proposer aux gens qui nous écoutent, qui sont emballés par cette idée-là aussi, qu'on n'est pas tout seul, il y a plein d'initiatives, de venir participer à l'émission d'une façon ou d'une autre. Nous, on veut en faire un rendez-vous quotidien où vous allez être les bienvenus à venir au studio à CIBL. On va être là les deux, on va pouvoir discuter avec vous. J'ai envie aussi qu'on s'échange des courriels avec nos auditeurs, qu'on s'échange des messages sur Facebook. Et on a une page Facebook pour notre émission.
Envoyez-nous vos courriels, vos aspirations, vos coups de cœur, vos solutions. Si vous avez une anecdote, même des fois, ça peut être juste une écoute très, très simple. T'sais, une petite anecdote, il s'est passé que telle chose au centre d'achat, je ne sais pas, sur le coin de rue, dans un parc. Des fois, ça peut être une source d'inspiration pour nous. Je pense que ça pourrait être important. Toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu une petite discussion dans une fruiterie,
le monologue d'ouverture de Guillaume Lande,
un reportage sur les créatifs culturels,
la définition du mot utopie,
et notre auto-entrevue sur notre démarche avec cette émission.
À venir dans la deuxième partie,
un reportage sur les systèmes d'échange locaux,
anarchie verte ou la mobilité différente,
Bread and Puppet, une communauté au Vermont axée sur les marionnettes et le pain de seigle frais.
Et pour conclure ce premier épisode, Annick Daigneault nous partage une tranche de vie avec En miettes sur le trottoir. Puisque ni activistes ni coalitions ne peuvent, par la parole seule, retarder le subtil cataclysme, n'attendez nul autre que vous-même pour passer à l'action. La vue des rangées de voitures stationnées brime votre sens esthétique de la ville belle, vous exécrez le bruit des voitures qui passent sous votre fenêtre, la pollution saveur gaz carbonique vous tue, elle tue, mais lentement, et avec moult de guerre engorge entre-temps. Bref, vous êtes un visionnaire, une idéaliste. Le boycott consciencieux d'une ou l'autre des méchantes pétrolières ne sera pas suffisant. Non pas que nous allons exploser, nous allons seulement perdre jusqu'au souvenir de la qualité de vie. Qu'à une époque, il fut certainement possible de respirer un buisson lilas à une centaine de mètres de là, et que notre qualité de vie actuelle n'est pas un acquis.
Change le monde, toi, tout seul. Ton geste, enfourche ton vélo. Car qui peut prétendre à la foi verte qui promène son rafio à gasoline par les rues de la ville? Et que cela ne soit pas par dépit, pauvreté, en attendant d'avoir de l'argent pour s'acheter une pollueuse à quatre roues. C'est un choix. Ce ne sera pas facile, ce virage des habitudes. Cela nécessite un bon grand sac, avec dedans de nouvelles valeurs et des t-shirts propres de rechange. Il faut vouloir, des fois. La ristourne, avoir un mode de vie sain qui vous distingue de l'obèse majorité réactionnaire. Santé, plaisir, du chemin, le nez dans l'air, découvrir la vie n'est pas un corridor entre un point A vers un point B. Que la vie est partout autour. Arrêtez de tournoyer comme des pitons pour du stationnement. Laissez votre compagnon birou sur le premier poteau en face de la porte et sautez dessus. Alors, les jours de pluie, la société de transport en commun. Eh oui, rien de terrible. Juste une autre expérience qui rendra les retrouvailles avec la bicyclette de plus radieuse. Et la jolie jupe le vendredi soir? Pensez au bidou épargné en ne possédant pas de voiture. Payez-vous le taxi et saoulez-vous! La liberté du voyage? Souvenez-vous que le covoiturage, c'est pratique, voire gratuit. Qu'il existe une association qui prête de n'importe quand des voitures et que le prix de l'abonnement est dérisoire, comme une auto. Chacun son petit monde, la vie dans un pare-brise, comme une télévision, devenue une prothèse pour ceux qui ne sont même plus capables de parcourir le monde, voire du monde. Pantin maladif dépossédé, bourré de pilules. Soyez en forme pour être libre, le jour où votre nouveau mode de vie vous aura enfin libéré de votre ancienne aliénation motorisée, vous ne voudrez plus vous en séparer. Et avec un peu d'organisation, vous vous obstinerez à vélo la majorité des jours d'hiver. Et vous réussirez, ah ça oui, par orgueil. Vous regarderez les autres avec pitié et deviendrez un convaincu prosélyte. Adjuvant votre nouvelle foi, de nombreuses compagnies voient l'avantage d'avoir des employés en santé, oxygénés par une balade en vélo le matin pour se rendre au travail. Des employés qui ne rongent pas le volant matin et soir dans des bouchons de circulation. Congestion automobile, concept inexistant ou très drôle pour un cycliste. En plus de mettre des douches à disposition de leurs employés, certaines tours à bureau vont même jusqu'à offrir un libre service de vélo, de sorte qu'ils puissent sortir dîner ou faire leur menu magasinage sur destrier. À part ces mesures exceptionnelles, pas de cadeaux. Les demandes de vélo Québec auprès de la ville de Montréal pour enrichir le réseau des voies cyclables sont restées lettres mortes depuis 15 ans. Dans la banlieue proche, les moyens de piste sont prétexte à faire visiter en zigzag les nouveaux quartiers champignons de maisons toutes pareilles qui ne mènent nulle part. Trop souvent, en fait, les pistes cyclables ne sont pas conçues pour les vélos mais pour les autos. En somme, pour débarrasser la rue des vélos. Non, ce n'est pas par contraste une ligne jaune sur un trottoir que ça devient une piste cyclable. C'est un trottoir. Et est-ce toujours la rue qui doit avoir priorité sur la voie cyclable? Pourquoi pas le contraire, comme en Suisse ou en Hollande? En attendant, un nouveau monde où la proportion de la rue accordée aux motorisés et celle accordée aux vélos sera inversée. En attendant le jour où seuls les autobus, cubes transporteurs et taxis pourront circuler lentement dans des passages qui ressembleront tous à la rue du Lutte, la plèbe le vélocipède du dimanche est confinée à des macaronis cyclables, alternant de charmantes sections avec d'autres où le chemin de l'enfer est mal pavé. Reste l'avant-garde des fous, comme les courriers à vélo qui ne se gênent pas et prennent possession de la rue. Ils réquisitionnent une voie au besoin. Ils ne se laissent pas accoter sur le bord des rangées de voitures stationnées car ils savent qu'une portière pourrait s'ouvrir. Ils se donnent des droits, ils sont porteurs d'un nouvel ordre après tout. Ils payent de leur peau ce nouvel ordre aussi. Des héros de la route qui portent les messages même l'hiver à moins 20 degrés Celsius. Dans la neige et pour des peanuts. Des délinquants peu recommandables peut-être, mais ils sont l'anarchie, la fonction chaos à l'intérieur d'un système bien organisé, mais pas organisé pour les humains, pour les machines. Apprenez à comprendre ce système, soyez-y à l'aise comme cycliste parmi les monstres de métal et glissez aquanautes dans le système. La place ne se demande pas, elle se prend. Quand les intrépides de la roue libre auront instauré une Montréal verte, toute la ville à échelle humaine, le nouvel ordre sera, et les compagnies pétrolières qui décident de la vie et de la guerre ne subventionneront plus la déchéance de notre civilisation.
Un texte de Céline Lavallée, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration de Philippe Laramé.
Thank you. au creux d'une coupole de vallons verts, un océan de fleurs sauvages, avec en son centre un théâtre sans mesure. Comme seul décor, un vieil autobus peint à la guignole et trois lutins. Dans les coulisses ouvertes au ciel, un étalage ordonné de masques gigantesques, de mains énormes à la peau de papier mâché et toute une panoplie de parcelles de personnages. Bread and Puppet, créé il y a 40 ans par l'initiative visionnaire d'un sculpteur allemand, est l'une des troupes de marionnettistes qui a, de par le monde, le plus suscité de remous et d'enchantement. Véritable phénomène au fil des décennies, cette troupe au discours sociopolitique s'est vue grandir autant au niveau visuel que populaire. Travaillant à la fois les marionnettes traditionnelles, la performance théâtrale, la musique fanfare et leur impressionnante marionnette géante, la troupe a réussi à créer un spectacle sans cesse en renouveau, passant du format circus à celui de la parade-procession. Ils utilisent l'espace vaste et généreux de leurs champs et forêts de pins pour créer des décors naturels où les dimensions s'entrelacent, baignant l'humain d'un monde surréaliste et symbolique. L'utilisation des éléments environnementaux donne à leur représentation une poétique d'envergure. Ce groupe communautaire, constitué à la base d'une demi-douzaine d'anciens, a déjà plus de 25 ans trouvé siège au Vermont sur une magnifique ferme, partageant la création, la culture et l'accueil. Ils eurent coutume, pendant longtemps, d'organiser des représentations festivales qui pouvaient attirer au-delà de 10 000 joyeux fêtards. Maintenant, par souci d'un plus grand contrôle, leurs prestations à saveur plus modeste accueillent chaque semaine des curieux de tous âges venant visiter leur grange-musée et se délecter de leur créativité et de leur légendaire pain de seigle frais. Fonctionnant avec l'aide de stagiaires, le théâtre se veut à but non lucratif et une simple donation est suggérée pour les supporter. Leur mandat est celui du « cheap art », où la facture spontanée de leur œuvre prône l'expression franche et accessible. Avec un langage parfois cru, parfois poétique et très souvent humoristique, ils arrivent à lutter leur foi en l'égalité, la conscience humanitaire et écologique et le tout-puissant possible. Longue vie à la création communautaire en nature.
Texte de Marie-Ève Colette, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration, Marie-Claude Journeau.
Au tournant du 21e siècle, notre société fait face à plusieurs crises. Accroissement des inégalités, destruction de l'environnement, perte de confiance envers nos institutions. Si ces réalités ont leur manifestation très actuelle, elles sont aussi intemporelles. Dans l'histoire du monde, on a souvent lutté. Face à la violence, l'oppression et la destruction, des femmes et des hommes se sont levés. Ils et elles ont opposé à la destruction la créativité et la beauté. Face à la haine et la méfiance, ils ont proposé la paix. Face à un monde où tout est noir ou blanc, elles ont proposé des visions nuancées qui reflétaient toute la gamme de couleurs. Surtout, face au fatalisme, ils et elles ont choisi la lutte. Ici Guillaume Lam et voici les nouvelles du front. À Québec, une clinique de santé de proximité voit le jour. Sans médecin, la coopérative SAPSA se consacre aux soins à échelle humaine. Ceux-ci sont offerts par une équipe de professionnels de la santé, composée principalement d'infirmières. Depuis toujours, les communautés humaines ont cherché à prendre soin des leurs. En effet, des travaux d'archéologie retracent des squelettes d'individus présentant des malformations qui auraient vécu jusqu'à 40 ans, ce qui signifie qu'ils ont été pris en charge par leur père. Déjà en 1968, la clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles voyait le jour afin d'offrir des soins de santé dans ce quartier pauvre de Montréal. Les citoyens s'étaient alors mobilisés pour prendre soin les uns des autres. Ce modèle inspirera le gouvernement dans la création des CLSC, mais la clinique de Pointe-Saint-Charles restera, et reste toujours, indépendante et gérée par les citoyens du quartier. La clinique SAPSA démontre que la lutte continue pour prendre soin des nôtres. La lutte pour l'égalité des citoyens se poursuit, elle aussi, alors qu'on se transporte en Espagne. Dès les années 30, tel que le rapportait George Orwell dans son hommage à la Catalogne, les habitants de la région d'Aragon ont réussi à faire vivre, le temps d'un instant, une communauté où la conscience de classe et le refus d'avoir confiance dans le capitalisme fussent des attitudes plus courantes que leur contraire. Les luttes citoyennes espagnoles se poursuivent toujours, alors que le mouvement des Indignados a démontré la force des citoyens d'Espagne. Aujourd'hui, le parti Podemos s'impose dans la politique du pays. Ce dernier propose une nouvelle approche, basée sur la participation citoyenne la plus large possible à tous les niveaux. Des circulados, des cercles où les citoyens discutent de la politique. Ils se fondent aussi sur la démocratie liquide, qui souhaite se rapprocher le plus possible de la démocratie directe. Les luttes sont tout aussi nombreuses sur le front de l'environnement, où s'opposent destructeurs et protecteurs de beauté. On n'a qu'à penser à l'homme qui plantait des arbres de Frédéric Bach. C'est sur ces fronts qu'on perçoit le plus de mouvements aujourd'hui. Énergie renouvelable, exploitation forestière durable, recyclage, mais aussi exploitation des sables bitumineux, pêche abusive, smog et catastrophes nucléaires. La lutte continue d'être rude alors que se profile à l'horizon la conférence de Paris du 30 novembre au 15 décembre 2015. Les protecteurs de la beauté ont signé de belles victoires dans les dernières années. Qu'on pense, ici au Québec, à la lutte contre les gaz de schiste, par exemple. Mais les gains restent fragiles et les positions difficiles à tenir. Pourtant, ils étaient encore et toujours des milliers à marcher ensemble pour le jour de la Terre. On rapporte aussi que les humains continuent à faire de l'art et à embellir le monde. D'autres auraient, quant à eux, choisi de planter des fleurs et de faire des jardins. Dans les tranchées, certains ont même pris des choix cohérents avec leurs valeurs. Des parents racontent des histoires à leurs enfants, un ami offre à un autre de l'écouter alors qu'il en a besoin, et des voisins s'entraident. Malgré l'adversité, plusieurs continuent aussi de faire l'amour et non la guerre. Pour Aube, c'était Guillaume Lam avec les Nouvelles du Front.
S'achète. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi. L'homme est un produit comme les autres, avec une date limite de vente. Je suis publicitaire. Je suis de ceux qui vous font rêver des choses que vous n'aurez jamais. Ciel toujours bleu, nana jamais moche, bonheur parfait retouché sur Photoshop. Vous croyez que j'embellis le monde ? Perdu. Je le bousille. Tout est provisoire. L'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi, surtout moi.
L'idée des sels a germé dans la tête de Michael Linton dans les années 80, un résident de l'île de Vancouver qui en avait assez de voir tant de gens réduits à l'inactivité, sans argent alors qu'ils avaient tant de savoir à partager, tant de compétences à offrir. Il a intitulé ça LETS, Local Exchange Trade System. Depuis, plus de 20 000 personnes dans le monde utilisent ce genre de système à travers plus de 300 groupes. Linton a même écrit un bouquin à ce sujet, LETS Design Manual. Il préconisait des échanges alternatifs avec une monnaie différente de la monnaie courante, mais ayant une valeur relativement égale pour éviter la confusion. Il ne voyait pas ça comme une alternative, mais comme un ajout. Les règles de base, pas de propriétaire, un conseil d'administration élu démocratiquement parmi les membres, pas d'obligation d'échange, pas de tricherie et pas d'intérêt. Il est difficile de résumer les fonctionnements des CEL puisque, comme il est dit sur le réseau des CELidaires en France,
« Tous les CEL sont différents. Chaque CEL ne représente que lui-même, puisque autogestionnaire et non centralisé. »
Un service d'échange locaux, c'est un système associatif permettant à un groupe d'une même zone géographique plus ou moins grande d'échanger des services, des savoirs, des biens avec une comptabilité en unité locale. L'idée de la bourse d'échange locaux, libre et équitable en France, résume bien le pourquoi cette alternative. Faire prendre conscience de la dimension humaine existant derrière tous les échanges en valorisant les savoirs et le savoir-faire mal reconnus dans notre société actuelle. Promouvoir la solidarité dans le cadre d'un développement local grâce aux échanges multiples des savoirs, services et des biens.
Au pays de Romain en France, on peut lire « Améliorer la situation matérielle des moins fortunés, avec des unités de valeur plus équitables. »
On retrouve dans les chartes des CEL des notions de convivialité, d'humanisme, de non-violence, de respect des différences de religion et d'idéologie, ainsi que des principes d'écologie.
Par exemple, le CEL de Grenoble parle de réduire la pollution liée au transport avec du covoiturage organisé, d'équité, de non-recherche de profit, d'autogestion et de responsabilité individuelle.
Tous s'entendent pour dire qu'un CEL ne doit pas jouer le rôle de police, que c'est à chacun d'avoir de l'honnêteté, de la transparence, de la communication et surtout de la créativité. Les offres et les demandes peuvent se faire en service ou en produit.
En Essonne, on retrouve les catégories suivantes. Maison et jardin, alimentation, vêtements, bâtiments, transport, art, sport, éducation informatique, soutien et santé, les produits allant d'un appareil ménager au mobilier, de location de costumes à la vente d'un livre. Dans le Trégor, en Bretagne, on parle de tarte aux fruits, de contes et de cours de piano.
Les unités d'échange sont parfois nommées des grains d'orge, des flocons, des bigorneaux, des piafs, des clous, noix, dans les différentes régions de France, ou encore le Time Dollar ou Ithaca Hour aux États-Unis, tandis qu'au Mexique, on parle de Tlaloc, et au Québec, on parle d'heures ou de grains de sel. En France, ça varie entre 50 et 60 unités par heure. Un plafond est instauré qui varie en général entre 2000 et 3000 unités, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Ce plafond peut être changé avec l'approbation du CA et doit être remboursé lorsqu'une personne décide de quitter le groupe, par exemple.
Aux États-Unis, un time dollar égale une heure, et un Ithaca hour correspond à 10 $. Au Mexique, le groupe Altabrasa de Valor a pour unité un tlaloc pour une heure ou 25 pesos. Pour les produits, on peut payer une partie en pesos, mais au moins 10% doit être donné en tlaloc. Un bon d'échange donne le droit à 10 transactions. Après, on échange le bon contre un nouveau.
Une question soulevée? Si le matériel est plus coûteux, par exemple en dentisterie, où le travail demande de la préparation, donc des thérapies diverses.
Le groupe Altra fonctionne avec une valeur pouvant varier de 1 à 4 unités, selon l'entente faite avec les particuliers. À Grenoble, les heures de préparation sont comptabilisées dans les heures de travail.
Quand l'activité ne mobilise pas les personnes à 100%, par exemple lors de gardiennage d'animaux ou de transport, le taux d'horaire est bien sûr plus faible. Il est évident que tout est une question de bonne volonté, entre les celliers. Gérer un CEL demande quand même du temps et de l'administration, que ce soit pour gérer les comptes d'offres et de demandes, les adhésions et les réadhésions, l'accueil des nouveaux membres, les informations, les locaux, les réunions, les activités, les catalogues ou le bulletin de liaison entre les membres. La plupart des CEL ont des journaux où sont écrites les offres et les demandes, les divers ateliers, les rencontres et les fêtes organisées entre les membres ou encore les différents comités dans lesquels on peut s'impliquer. Parfois, on peut même y lire des articles traitant d'écologie, de mondialisation ou de petites annonces activistes. Les employés ne reçoivent pas de rémunération en monnaie courante la plupart du temps. Certains groupes font des demandes de subventions gouvernementales, mais sont tout de même payés en unités d'échange. D'habitude, un montant minimal est prélevé à l'adhésion, soit en monnaie courante, soit en unités d'échange.
À Paris, c'est 150 piafs, donc 3 heures de service. À Ithaca, aux États-Unis, la cotisation de 1 $ par année est symbolique.
On voit aussi que certains groupes donnent des unités au départ pour encourager les échanges. Des membres des CEL sont élus pour devenir membres du CA.
À Paris, ça varie entre 5 et 13 membres dans un conseil, élus pour un an.
Dans la plupart des CEL, il y a aussi des assemblées générales des membres chaque année.
À Ithaca, le marché d'alimentation Green Star fonctionne en Ithaca Hours, ainsi qu'une banque et les fameux Ben & Jerry's.
Dans d'autres villes avec le Time Dollar, les membres coopèrent avec les administrations municipales, nationales, fédérales, états-uniennes.
À Grenoble, une chose est soulignée que je trouve intéressante. Les règles, s'il y en a le moins possible, c'est pour qu'on trouve du plaisir à échanger, à négocier nos trocs.
Alors, soyons solidaires et tissons serré le cordon de nos bourses dans le tissu social de notre communauté.
Un texte de Sarah Maria Leblanc, tiré de Aube, le recueil de solutions.
Narration, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.
Siphonnons-nous déjà le sens qui nous échappe en repassant à nouveau dans une douce orientation du poignet les stations de radio. Se dire que tant de mots et messages interfèrent avec la vie de tous les jours est absolument fulgurant. À l'imaginer, les phrases volent et défilent dans les airs et on voudrait bien y échapper. Mais comment le faire ? Comment aboutir à l'imperturbable sénescence que le silence donne lorsque croisé au plus profond de notre champ de vision, le son de la rue et le non-son des ondes encore en convoi s'entrechoquent dans la banalité putride de la vie ordinaire ? Que faire si ce n'est marcher droit, en ignorant le sourd carambolage et passer notre chemin en bavant sur nos courses ? Pour l'homme instruit, déguisant son ennui plus désespéré que nécessaire au fond d'un lieu chaud et doux, la radio ne s'écoute pas, elle se consomme. Le bruit de la rue manque et l'onde ayant déjà survécu au dehors véhicule dans le réceptacle l'ubuisme confortable, le commun, le chant et contre-chant d'imaginaires portés par le grésillement hertzien. Alors si l'ennui s'habite par la nonchalance de l'oreille, pourquoi ne pas souffler aussi l'envie d'agir ? Le lambda est aveugle, concentré dans les oscillations ringardes du barbarisme journalier. Mais de lambda ne pourrait-il pas, lui, le susnommé, passer à l'ambition grecque d'autres lettres de l'alphabet ? L'alphabet est bien riche et les mots s'y cachent, vibrent dans son esprit au son des cloches entrecoupées de pauses publicitaires. De lambda, l'alpha spirituel pourrait bien être, mais comment, me direz-vous ? Eh bien, l'être seul n'est qu'isolé dans l'abécédaire. Ce n'est qu'avec l'autre qu'il deviendra la phrase puissante et le mot évocateur. Comme l'évolution, la phrase se fait ensemble. Seuls, nous ne sommes que néant. Alors, cousons l'ensemble au fil des ondes.
Hier, j'ai croisé une femme échevelée, en larmes. Ses miettes étaient ramassées près d'un parcomètre et attiraient l'attention plus que sa douleur. J'étais au téléphone. Je l'ai regardée en me sentant impuissante, puis j'ai passé ma route. Finalement, 11 pas plus tard, j'ai vibré. Il ne suffit que d'une personne. J'ai éteint mon sel, puis j'ai rebroussé trottine et je me suis posée à côté d'elle sur l'asphalte humide, dans sa brume de bière cheap et son chaos de verbe. Il n'y a plus beaucoup hier. Elle n'allait pas bien du tout. En m'arrêtant, j'ai rien changé dans la vie de cette fille. Elle ne voulait pas de mon aide éphémère ni de mes questions qui se voulaient sensibles mais qui lui semblaient paraître intrusives. Je n'étais pas significative. Elle est restée assise. Elle a sûrement beaucoup pleuré encore après mon départ et ma pièce n'a pas fait sa soirée. Pendant 11 minutes, nous nous sommes rappelés que nous étions humaines et que sa peine était entendue. Je vous dis pas ça pour culpabiliser l'inaction, ni pour offrir de la visibilité à mon empathie. Mon empathie s'en fout d'avoir un public. S'arrêter n'a rien d'héroïque. Je vous partage ce fragment de vie montréalais, banal, parce que je nous sais souvent devant la peine ou la violence, au fond du cœur, trop volontaire et dans nos gestes trop immobiles. Nos interventions ont le droit d'être humbles, d'être discrètes ou maladroites, mais elles doivent, selon moi, être. Des larmes aussi intenses ne devraient pas être vécues dans l'indifférence générale peu importe la source. J'avoue aussi que je sème ce que j'aimerais récolter. Si un jour je me retrouve par terre, grise et mouillée, brisée et vulnérable, à m'essuyer le désespoir près de vos chaussures à 200$, mais j'espère un peu, juste un tout petit peu, qu'une personne va s'arrêter pour rien dire. Humblement. En acceptant qu'elle ne va pas changer le cours de mon récit, mais simplement pour m'offrir sa compassion. Peu importe les mauvais choix, les maladresses, les hasards louches, j'espère que je croiserai alors la personne qui éteindra son cellulaire en s'essayant dans un souvenir de pluie pour me rappeler, sans jugement ni conseil, que même pas chic et un peu crasse, à pleurer parmi les hommes, j'existe encore.
Texte et narration, Annick Daigneault.
C'est ce qui conclut l'épisode pilote de Aube.
Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à participer à celle-ci. Chaque émission est le fruit des collaborateurs du moment.
Si vous avez deux secondes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter.
Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Jean-Baptiste Cardarin, Annick Daigneault, Marie-Claude Journaud, Guillaume Lambe et Philippe Laramé.
À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.